Vous écoutez
RMC.
RMC. 20h-21h.
Breaking Foot.
Mohamed Bouafsi.
Louis Hamar.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Breaking Foot. On est très heureux de vous retrouver comme chaque soir du lundi au jeudi de 20h à 21h sur RMC pour les toutes dernières informations RMC Sport, les toutes dernières indiscrétions du monde du football. Vous saurez tout comme d'habitude dans Breaking Foot. Comme ça, vous allez pouvoir briller demain matin à la machine à café sur le sujet du coronavirus, sur le Stade Rennais, qui va finir troisième. Vous saurez tout encore une fois avec les meilleurs consultants, bien évidemment. Bonsoir Pierre Ducrot.
Bonsoir Mohamed. Bonsoir,
ça va mon Pierrot, est-ce que t'es en forme?
Ça va, mais tu sais que tu traînes plus aux machines à café en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Faut surtout pas.
C'est vrai. C'est là-bas où on peut choper le plus de trucs. Bonsoir Louis Hamar.
Bonsoir Mohamed. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à tous. Dans Breaking Foot ce soir à 20h40, supporters de tous les clubs, appelez le 32-16. On attend vos questions. Dans une vingtaine de minutes, le capitaine du Stade Rennais, Damien Da Silva, sera notre invité. Rennes 3ème de Ligue 1. Et tout de suite, le PSG.
RMC Breaking Foot,
l'info du jour.
La nouvelle était redoutée, elle est tombée ce matin. PSG Dortmund se jouera donc à huis clos après-demain. Décision de la préfecture en application des consignes du gouvernement. La Ligue 1 va être affectée, l'équipe de France aussi. On y reviendra tout à l'heure. Supporters parisiens, on vous attend dès maintenant au 32-16. Mais d'abord Mohamed, comment cette nouvelle a été accueillie tout à l'heure au sein du club, au PSG?
La nouvelle tout d'abord, elle avait commencé à fuiter hier soir hein, puisqu'on avait annoncé sur RMC Sport la tendance de ce huis clos. On va dire la vérité à nos auditeurs, on avait l'information hier que c'était un huis clos total et que ça allait être annoncé ce matin par la ministre des Sports. En tout cas, que l'information allait être dévoilée par la ministre des Sports et que le préfet de police de Paris allait donc annoncer ce huis clos parce que c'est lui en matière sanitaire qui a le dernier avis, l'avis exécutif pour annoncer un huis clos total au Parc des Princes mercredi. Alors, c'est simple. Hier, après le conseil de défense qui a eu lieu à 18h, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé qu'il n'y aurait plus de rassemblement de plus de 1000 personnes. Les deux rencontres qui avaient clairement été évoquées, c'est le match entre le PSG et le Borussia Dortmund et le match de samedi qui a lieu au Stade de France entre l'équipe de France de rugby et l'Irlande pour le tournoi Destination. Donc la décision avait été prise à ce moment-là et même tous les rassemblements jugés comme pas forcément obligatoires. Donc la Ligue 1 en fait partie, tous les événements sportifs. Il y a beaucoup de tristesse au sein du PSG, on va le dire à nos auditeurs, beaucoup de colère aussi, parce qu'on a l'impression qu'on souffre encore une fois de malchance. Il y a aussi de la tristesse chez les équipes, j'ai envie de dire corporate, chez ceux qui travaillent dans l'administratif, parce que c'est un manque à gagner de plus de 10 millions d'euros pour le PSG, un manque à gagner qui est douloureux mais qui est désastreux aussi pour tous les prestataires des services qui travaillent avec le PSG sur cette rencontre. 3500 personnes, des gens qui pourraient se retrouver à terme en chômage partiel. On parle de plusieurs centaines de personnes puisque les huis clos au Parc des Princes et dans tous les stades de Ligue 1 vont durer jusqu'au 15 avril. Et encore une fois, on a l'impression qu'on souffre de malchance et que sportivement le sort s'acharne sur le PSG, Pierre.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'irai pas sur le terrain de décision bien fondée ou pas. Moi, je suis consultant, c'est pas mes compétences. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que ancien joueur de foot, c'est terrible pour ce match qui va. Ça pourrait être le plus beau match de l'année sans public. Il va te sembler le match pas loin d'être le plus pourri de la saison. Quoi. C'est ce qui est terrible, c'est que tout devait être réuni pour faire normalement un beau match. Et en fait, ça va être un match
bizarre.
Ouais, bizarre.
Au minimum parce que bizarre.
Ça peut plus être un beau match quoi, en fait. Sans le public, sans l'ambiance. Enfin, avec nos caméras, ça donne. Pas pareil, le rendu est terrible, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est une situation plus que particulière, plus que préoccupante, et t'es obligé à un moment donné de faire ça. La seule chose que je peux souligner, pour moi, enfin, en tant que personne lambda et également supporter du PSG, c'est toutes les incohérences un peu qui te semblent arriver. On interdit ça, mais ça reste autorisé, tout le monde se déplace ensemble dans des métros, etc. T'as du mal à comprendre un petit peu la cohérence des décisions. Voilà,
après, c'est ce que Mohamed disait, les déplacements en métro, pour la plupart du temps, ce sont des déplacements professionnels qui sont des impondérables, on peut pas les éviter, sinon on met le pays complètement en situation de blocage, alors qu'un événement comme un match de foot, même si pour nous on avait coché la date depuis longtemps et qu'évidemment on l'attendait avec impatience, ça reste un événement, comment dire,
les manifs du jour, les, les manifs du jour, c'est quelque chose d'impondérable.
C'est considéré comme utile pour la société. Imagine, Pierre, on va pas aller sur le terrain politique. Imaginons que le ministre de la Santé hier avait annoncé que les manifestations étaient arrêtées. On serait tombé sur le gouvernement en disant que c'est de la censure, etc. Donc c'est pour ça que les besoins d'utilité publique, c'est ce qu'on nous a expliqué.
On est sur d'autres critères que l'utilité publique, pour moi. Là, on est sur les conséquences en termes d'image ou de communication que ça peut avoir sur le gouvernement.
Mais c'est pour ça qu'il faut rester sur le sport.
Il y a de salons qui sont annulés, notamment Porte de Versailles, pas très loin de notre studio. Il y a beaucoup d'événements.
Et qui ont d'énormes conséquences pour les personnes.
Dans un instant, on sera avec deux supporters parisiens qui ont composé le 32-16. Mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute Romain Mabi. C'est le président du CUP, le collectif Ultra Paris. Alors évidemment, il ne pourra pas rentrer dans le stade, mais il veut quand même faire un peu de bruit autour du parc. Écoutez-le.
Clairement se réunir autour du stade pour que les joueurs, même avec le véhicule, nous entendent de l'intérieur. Après on ne sait pas comment ça va réagir sur les autorités publiques. On ne sait pas. On attend parce qu'on est un peu dans l'inconnu. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire ou ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas, nous, de notre côté, l'envie, elle est d'aller autour du stade et de pousser l'équipe et qu'ils nous entendent même de dehors.
Voilà, Romain Mabi au micro de Saber Desfarges.
Vas-y, Pierre.
Non, j'allais dire, l'intention est bonne et on peut imaginer des joueurs sur le terrain qui entendent que dehors c'est plein ou quand ils vont arriver en quart. Mais sauf que c'est pas réalisable. Enfin, ils vont se mettre eux en danger avec des forces de l'ordre,
voilà,
etc.
C'est juste une chose.
Ça paraît très compliqué.
C'est-à-dire que si on arrive au Parc des Princes pour chanter, c'est très bien. Il faut surtout pas qu'il y ait de débordement en dehors du Parc des Princes parce que déjà les voisins,
ils vont être plus de 2000 forcément.
Oui, mais ce que tu vas
t'opposer à ces interdictions du moment.
Oui, mais à l'époque, par exemple, c'est déjà arrivé à Furiani et à Bastia, on entendait du bruit, etc. Les joueurs disaient que ça nous poussait. Mais juste, on le dit bien aux Parisiens, c'est formidable, l'idée formidable, mais qu'il n'y ait pas de débordement.
Le CUP le dit d'ailleurs lui-même, qui se pliera aux consignes édictées par les autorités, donc il n'y a pas de problème.
Et le dernier élément pour aussi donner une vision claire à tous nos auditeurs, on a entendu la ministre parler de rassemblement de moins de 1000 personnes sur des rencontres au Parc des Princes, au Groupama Stadium ou au Stade Vélodrome, ça veut dire huis clos. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit sur les réseaux sociaux, mais pourquoi on n'autorise pas 1000 ultras du PSG pour rentrer dans le stade? Eh bien, ce n'est pas possible pour une raison très simple, c'est que 1000 personnes, c'est quasiment un huis clos, puisque avec les joueurs, les staffs médicaux, les ramasseurs de balles, l'UFA, ou la Ligue de football professionnel sur un match de Ligue 1, la sécurité, il y a beaucoup de sécurité, les staffs, je les ai donnés, et la presse, on arrive quasiment, et le diffuseur du match, donc là, en question, mercredi, RMC Sport, la Ligue 1, c'est Canal Plus ou Bein Sport, et bien avec les équipes techniques, la régie, etc., on arrive déjà à 1000. Donc on peut, en fait, ça veut dire que c'est pas une préconisation d'un huis clos, c'est un huis clos total. Voilà, ça c'était important de le dire. Et il y a beaucoup d'appels de supporters parisiens qui veulent réagir à cette décision. Et Yacine nous a appelé au 32-16 pour venir réagir. Salut Yacine.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Bon, Yacine, on imagine que ce soir t'es triste, dépité.
Je sais pas, c'est une colère mais générale, mais c'est pour l'ensemble des clubs français parce que huis clos là, je vais revenir après sur match de Ligue des Champions, mais huis clos jusqu'au 15 avril, mais des clubs comme Reims, comme Amiens, etc., mais ça va être une catastrophe pour boucler leur budget. Parce que chaque club en début de saison fait un budget prévisionnel, ça veut dire des gens au chômage, ça veut dire des ventes forcées, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe là. En plus, chaque match est au cas par cas. Lille-Lyon, ça s'est passé normalement. Lyon-Paris, 35 000 personnes, voilà. Par contre, alors j'ai remarqué que les Anglais, les Espagnols, les Allemands, eux, il n'y a pas de problème. Eux, ça passe comme dans du beurre, voilà. Et à l'arrivée, nous, on est vraiment pénalisés comme il se doit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que les clubs de Ligue 1, il faut qu'ils se fassent dédommager. Point barre. Il faut qu'ils voient avec les organisateurs, mais il va falloir qu'il y ait un dédommagement. Là, on parle de. Là, ça va chiffrer. Hein,
Yacine, voilà, pour corriger, c'est important de le dire. La décision a été prise hier après le Conseil de défense, donc on peut pas juger sur les événements qui ont eu lieu ces derniers jours. On est passé à plus de 1412 personnes contaminées en France. C'est déjà important. 25 décès. En Italie, c'est une crise sanitaire assez incroyable. Donc à un moment, il fallait prendre des décisions. Et hier, quand le Conseil de défense est terminé, il était déjà 10h30, 20h. On ne pouvait pas annuler le match entre Lille et Lyon puisque les gens étaient déjà au stade. C'est pour ça que cette décision a été prise dans ce sens-là. Après, on est, Louis, je parle sous ton contrôle, le quatrième pays au monde à subir le plus de contamination après la Chine, l'Iran et l'Italie. Donc, on prend des décisions, le gouvernement a pris des décisions dans ce sens. En revanche, t'imagines bien que si l'épidémie, Yacine, arrive en Angleterre de manière très forte ou en Espagne de manière encore plus puissante, là, les réactions seront prises. Pour l'instant, il n'y a pas trop de contamination en Angleterre ou en Espagne.
On peut quand même préciser que même si effectivement on va jouer en Angleterre et en Allemagne et qu'il ne s'agit pas pour l'instant de repousser des matchs ou de les faire se disputer, se jouer à huis clos, la rencontre entre Valence et l'Atalanta Bergame sera à huis clos, oui. Parce qu'elle implique des joueurs de l'Atalanta et des Italiens qui sont dans une zone considérée dangereuse de l'épidémie. Et puis en Italie, le comité olympique italien a demandé ce soir la suspension de la Serie A. Ça n'est pas lui qui décide, c'est une décision qui doit ensuite être avalisée par le gouvernement italien, mais le comité olympique demande la suspension du championnat. Et donc on est encore dans un autre cas de figure et dans un autre ordre de grandeur que ce qui se passe chez nous.
Et on va sans doute, Yacine, arriver à la suspension du championnat italien, puisque le ministre des Sports hier a demandé qu'on arrête le championnat. Donc c'est quand même une tendance qui approche. Mais en revanche, il a raison, Yacine, d'insister sur les clubs moyens de Ligue 1, c'est une crise incroyable.
Ah, ça va être compliqué à digérer. Mais alors, nous, on est une émission de foot, donc on parle des clubs de foot, mais ça touche finalement tout le monde. Un directeur de théâtre aujourd'hui peut voir son établissement fermé parce que pendant 2-3 mois, il aura plus de rentrée d'argent, il y aura plus de billetterie, il y aura plus les productions qui pourront travailler chez lui, etc. Enfin bref, c'est quelque chose qui touche à chaque fois les commerçants. On n'en parle même pas au fur et à mesure. On a vu que les zones où les gens ne sortaient plus, c'est terrible pour eux. Donc oui, ça va être terrible pour des clubs qui ont une part de leur budget importante représentée par la billetterie. Mais quoi faire? Quoi faire? Indemniser, oui, alors t'as raison, il faudrait qu'ils soient indemnisés, mais le problème c'est que les assurances marchent pas pour ça, donc ouais. Personne ne va indemniser les clubs. Ça va être compliqué à supporter.
Et t'as raison de revenir sur des sujets un peu plus terre à terre. On a une pensée aussi pour tous les parents d'enfants qui sont classe fermée et des exactement. Parents qui doivent se mettre en congé forcé pour s'arrêter de travailler. Donc c'est un salaire en moins pendant quelques semaines. Donc on avait pensé pour tous ces parents, notamment dans l'Oise ou encore en Picardie, dans le Bas-Rhin, en Corse aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Yacine, merci d'être venu au 32-16. Merci pour ton message ce soir.
Alors évidemment, malgré cette décision, le match va quand même avoir lieu. Et Thomas Tuchel, dans un contexte même compliqué, continue bien sûr à le préparer. Et une composition probable se dégage déjà, Mohamed.
Oui, une composition que l'on va retrouver avec Thiago Silva. Pierre, c'est clairement la tendance dans les cages Keylor Navas, la charnière Thiago Silva Kimpembe, à droite Thilo Kehrer qui lui montrait depuis plusieurs jours des signaux très positifs, à gauche Levin Kurzawa pour l'instant préféré à Juan Bernat, au milieu de terrain Marquinhos Gay, à droite Di Maria, à gauche Neymar, Mbappé et Cavani en pointe, un vrai 4-2-4 ou un vrai 4-4-2, c'est à toi de choisir Pierre. Il y a quand même là, depuis quelques heures, et cette information RMC Sport et cette composition probable, beaucoup de réactions de supporters parisiens, Pierre, qui sont étonnés de voir Thiago Silva en défense.
Ouais, bien sûr. Alors moi je fais partie de ces gens-là, effectivement, qui sont surpris, mais et en même temps surpris oui et non, parce que je pense que il a très envie de titulariser Thiago Silva pour pouvoir mettre Marquinhos au milieu. Voilà, je pense que c'est un peu le jeu des chaises musicales et que s'il avait pas à sa disposition Thiago Silva, peut-être qu'il hésitait fortement à mettre un Kwasi quand même dans un match comme ça. Même si moi je pense qu'il aurait peut-être pu tenter le coup, mais donc il aurait été obligé de redescendre un Marquinhos et composer un autre milieu. Je pense que c'est un peu le cheminement de son idée. Alors je dis ça, je me trompe peut-être. Hein, mais
est-ce que le huis clos peut avoir un impact sur sa compo? Ou non. Est-ce que ce sont deux sujets totalement
différents? Non, c'est deux sujets complètement différents. Tu veux dire qu'il y a des joueurs qui seraient capables de jouer,
par exemple,
ou de se mobiliser sans...
pour te poser clairement la question.
Thiago Silva avec du public mentalement.
Et à l'inverse, est-ce que Cavani sans public, ça vaut la peine de le mettre titulaire?
Alors moi Cavani, s'il y a un joueur avec qui je me pose pas de questions sur un match et sur son investissement, c'est lui. Je pense même que tous les jours à l'entraînement, il est très investi ce gars-là. Donc là-dessus, j'aurais pas de doute. Et quant au côté mental, est-ce que des joueurs seraient meilleurs sans public ou avec un public? Enfin si on en est là, honnêtement, faut que les joueurs concernés, je dis si, hein, parce que je le pense pas, mais faut qu'ils arrêtent le football.
T'as déjà joué à huis clos?
Non.
À huis clos.
C'est en Angleterre.
Donc, est-ce que t'as déjà joué à huis clos?
Never.
D'accord.
Never played.
Maintenant, est-ce que t'as déjà joué à huis clos?
À huis clos non plus. Jamais.
T'as jamais joué?
Non, jamais, je crois pas. D'accord. Ou alors j'ai oublié, mais je crois pas.
Écoute, on la retrouve. Non, je rigole. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé avoir ton avis. Oui. Voilà. Ouais. Donc c'est pas le cas.
Et on a posé la question tout à l'heure dans Team Duga. Duga non plus. Manu non plus. Donc
personne, ouais, mais vous déplaciez pas quand il y a
il n'y en a pas tellement. Il y en a pas tellement. C'est rare, c'est relativement rare.
Tu veux que je te dise un truc sur le. On revient 10 secondes sur l'esprit tactique. Je pense que Marquinhos aurait dû jouer en défense et qu'il aurait dû faire jouer Paredes avec le recul.
Ouais, peut-être, mais je pense que, enfin, on voit un petit peu ce qui s'est passé entre Paredes et lui. C'est pas le grand amour depuis quelques semaines.
À un moment,
et je pense qu'il est là-dedans, quoi.
Je n'ai pas cédé, Louis, à la hype Paredes. Ah oui, je n'ai pas cédé à ça.
Mais... Beaucoup d'auditeurs y avaient cédé.
Oui, non, mais je n'ai pas cédé à ça. En revanche, je pense, pour avoir échangé avec des gens du groupe, etc., que Thiago Silva a absolument envie de jouer et que ce n'est pas forcément lui rendre un service de absolument le titulariser face à Dortmund où ça va aller très vite. Et deuxièmement, je pense que le début du match va se jouer sur l'intensité, le combat, de l'impact et que Paredes, même si c'est pas le meilleur joueur du monde, il a la capacité de mettre des taquets, de montrer à Haaland qu'il est au Paris des Princes, de montrer à Sancho qu'il va pas courir très vite. Et je pense qu'il manque un joueur dans ce milieu de terrain qui est capable de leur montrer que ils sont
verticale.
Et tu, ouais, et puis tu, enfin, moi, dès la semaine dernière, je te le disais ici ou dans d'autres émissions, je crois que Thiago Silva, et j'espère qu'il me prouvera le contraire.
Tu le disais mieux ici.
S'il joue, mais il a cette fâcheuse tendance en ce moment et depuis un petit moment à beaucoup reculer et ça te remet en cause tout ton procédé défensif, c'est-à-dire que tu ne peux plus défendre en avançant quasiment quand ton dernier homme, le patron de la défense, recule de 10 ou 15 mètres trop. Il l'a fait contre Amiens, il l'a fait au match aller. Et c'est pour ça, moi, que je voulais même un Kwasi limite, parce que ce gars-là, même avec les autres carences qui peuvent être les siennes liées à sa jeunesse et à son manque d'expérience, allait mettre le feu au cul des attaquants de Dortmund au moins. Bon, c'est comme ça.
Juste avant que Capdel soit avec nous au 32-16, il y a un nom qu'on n'a pas cité depuis qu'on a donné cette compo probable et j'avoue que j'en suis très étonné, celui de Levin Kurzawa. Ça n'inquiète personne.
Ouais.
Et Kurzawa préféré à Bernat, ça n'inquiète personne.
Moi, je trouve que Levin Kurzawa ces derniers temps est mieux.
Comme
que...
à Lyon où il coûte le but.
Alors, je te dis pas que c'est parfait, Louis. Tu vas forcément trouver des choses et je te rejoins qui vont pas encore dans le jeu de Levin Kurzawa. Mais je trouve que c'est mieux en ce moment que ce fut le cas notamment début de saison et même avant.
Et comme le dit Jimmy Brand, le producteur brillant de cette émission, c'est aussi le fait que Bernat a peut-être un souci physique ou n'est pas encore de retour à 100%.
Peut-être aussi. T'as pas beaucoup de choix non plus.
Abdel nous a appelé au 32-16. Salut Abdel.
Bonsoir messieurs.
Tu voulais réagir ce soir sur l'esprit tactique, on va dire, sur cette composition probable. On t'écoute dans Breaking Foot.
Allez, moi aujourd'hui, je suis dépité. Vraiment dépité. Entre la nouvelle du huis clos, où franchement ça passe pas du tout. Derrière, t'as Tuchel qui envisage de faire jouer Thiago Silva. Putain, c'est ce chat noir. Qui va encore jouer alors qu'il y a moyen de mettre Paredes. Il faut mettre Paredes et Idrissa Gueye au milieu parce qu'en face il y aura de l'impact physique. Tu auras Evitzel et tu auras Emre Can. Qui est-ce qui va répondre à ces deux-là? C'est pas possible de faire jouer Thiago Silva en défense avec Kimpembe et devant Marquinhos. T'as un joueur en moins au milieu parce que le Hollande il sera toujours cerné par les trois défenseurs. Et tactiquement on part déjà handicapé. Et puis, ce matin, j'ai lu que Mbappé n'avait pas suivi l'entraînement, que le mec était grippé, mais je me dis que le sort, il s'acharne sur nous. On n'a vraiment pas de chance. Non, mais franchement, c'est pas possible.
Alors, on peut peut-être te rassurer un peu, Mbappé.
Abdel, Mbappé, il n'est pas grippé, il avait juste mal à la gorge.
Voilà.
On est lundi, voilà, il y a le coronavirus, il fait un peu froid. Voilà. Tu sais quoi?
Précaution.
L'isopaïne, strepsils et un doliprane, et c'est réglé. Il sera là demain à l'entraînement et il sera bien là face à Dortmund.
Je sais pas si tu peux doubler l'isopaïne et strepsil.
Moi je l'ai fait, ça marche très bien. Après tu te sens un peu fatigué.
Mais il y a pas de test antidopage.
Ouais, c'est vrai.
On disait tout à l'heure dans le team du gars, ce n'est que du foot. Oui, je suis d'accord, c'est que du foot. Mais dans le team du gars, il y a beaucoup d'anciens joueurs de foot qu'on respecte hein, beaucoup, mais c'est pas des supporters. Pour nous supporters, c'est pas un seul match de foot. Mm. Et surtout encore moins quand on est supporter du PSG. Mm. Moi ce huitième de finale, de base, de nature, je suis pas quelqu'un stressé. Mais au huitième, allez. Au coup de sifflet, vraiment, le coup d'envoi, j'avais la boule au ventre. Mmh. Et là, vous imaginez même pas dans quel état
je suis. Non, mais si, Abdel, moi, je te rejoins complètement. C'est pas que du foot. C'est pas que du foot dès qu'il y a des catastrophes ou dès qu'il y a des gens qui dérapent, ont des menaces, etc. Mais en revanche, quand c'est un match, eh bien, il y a des gens qui attendent ce match-là depuis le mois de septembre. Il y a des gens qui ont payé leur place, qui se saignent à l'année pour. Et c'est pas de la démagogie. Des mecs qui se saignent ou des femmes, des enfants, des parents qui attendaient ce match avec impatience pour offrir ça à leur fils ou à leur fille. Bien évidemment que c'est pas qu'un match de foot. Et en plus de ça, j'ai aussi une de penser, c'est imaginons, et je le souhaite pour Paris, que le PSG se qualifie. Le PSG pourrait se retrouver avec un match à huis clos à Paris. Et le fait de jouer, on verra comment la situation va évoluer pour le coronavirus, mais face à un club qui ne jouera pas son match à huis clos. Donc c'est sûr que je peux comprendre les supporters parisiens, Abdel, comme toi, qui se disent aujourd'hui, on souffre de malchance.
Merci beaucoup Abdel d'avoir été
avec nous. Abdel.
Merci Abdel.
À bientôt au 32-16. Évidemment, PSG Dortmund, ça sera quand même mercredi à 21h en direct sur RMC. L'autre match de ce mercredi soir, ça sera Liverpool-Atlético de Madrid et à Anfield. Il y aura du public. 20h22 sur RMC. Dans un instant, Damien Da Silva, le capitaine du Stade Rennais, 3ème de Ligue 1, et l'invité de Breaking Foot. A tout de suite sur RMC.
RMC
20h21h
Breaking Foot
Mohamed Bouafsi,
Louis Amar
avec Pierre Ducrot, Breaking Foot en direct jusqu'à 21h. Dans un petit quart d'heure, supporters de tous les clubs, on vous attend au 32-16. Venez nous poser vos questions, mais d'abord on part à Rennes.
RMC Breaking Foot,
l'homme du jour.
On part pas à Rennes, on part
Rennes, viens à nous.
Non, on part au Real Madrid, là, au FC Barcelone. Depuis quelques jours, là, c'est football champagne. Hein.
Rennes,
c'est Brésil, Rennes.
Rennes, vainqueur de Montpellier 5-0. C'est pour ça que tu dis ça hier. Rennes, toujours 3ème de Ligue 1, mais désormais à 6 points du 2ème, l'OM. Pour en parler, le capitaine du Stade Rennais et ce soir l'invité de Breaking Foot en direct sur RMC.
Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Bonsoir Damien.
Bonsoir Damien.
Damien, je le disais, en ce moment c'est le Real. Enfin, le Real a fait un match nul,
a perdu
face 2-1 face au Betis. C'est incroyable en ce moment. Vous avez très largement battu Montpellier après une demi-finale quand même de coupe qui s'est passée moyennement bien, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux matchs pour accélérer cette remobilisation?
Ouais. Bon, le Real, je pense que vous pouvez faire un peu loin. Mais bon. non, c'est vrai que le match de coupe nous a fait mal parce que voilà, on voulait vraiment. Pourquoi pas revivre l'épopée qu'on a vécue l'année dernière? Et voilà, on sait ce qu'on a raté en étant éliminé. Et voilà, on s'en voulait beaucoup après le match de Saint-Etienne parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on méritait pas d'accéder à la finale, donc on le savait. Et on voulait se racheter un peu par rapport à ça aussi. En plus, voilà, mon championnat, on est bien quand même, donc il n'y avait pas tout à jeter. Et donc, on était très motivés pour faire un grand match.
Damien, c'est votre meilleur match de la saison, on peut le dire, cette victoire 5-0 face à Montpellier? Dans le jeu, l'ambiance, tout s'est bien passé?
Oui, ça reste, je pense, un match référent cette saison sur lequel il faut s'appuyer. Voilà, dans tous les points de vue, on a mis beaucoup de buts et on n'en a pas pris. Donc, je pense que c'était vraiment un match parfait pour nous.
Damien Da Silva, le capitaine du Stade Rennais, invité de Breaking Foot en direct sur RMC. Damien, le match référence dont vous parlez, celui d'hier, vous l'avez gagné en 4-3-3, alors que depuis plusieurs mois, Julien Stéphan avait installé un 4-4-2. Est-ce que vous êtes aussi à l'aise dans les deux systèmes? Et est-ce qu'il y en a un, vous, qui a votre préférence?
Personnellement, pour moi, les deux, je suis à l'aise. Ça ne change pas beaucoup par rapport à mon poste individuellement. Après, c'est vrai, collectivement, hier, ça a super bien fonctionné. On a des joueurs qui sont capables de s'adapter à ce système-là, notamment on a Steven Zanzi qui vient d'arriver et qui a un rôle super important en sentinelle. Enfin, hier, en tout cas, il a été très bon à ce rôle-là. Je trouve que ça lui va bien aussi. L'équipe arrive à s'adapter, donc c'est toujours intéressant.
Pierre Ducrot a une question pour vous, Damien.
Ouais, salut Damien. Juste pour ce système, moi j'en parlais hier soir effectivement dans l'after. Moi ça me paraît quelque chose que tu ne peux pas éviter, le 4-3-3 dans tous les secteurs de jeu. Vous avez des joueurs qui ont des profils pour jouer là-dessus, que ce soit vos latéraux. T'as raison, à ton poste, toi ça te change pas grand-chose, mais vos latéraux sont beaucoup plus à l'aise avec des excentrés qui rentrent quand vous jouez à 3 devant. Peu importe les excentrés que tu mettes finalement, puisque tu peux même changer ton milieu de terrain. T'as trouvé ta sentinelle et tu peux également changer les deux milieux de terrain qui jouent devant lui. Est-ce que ça va continuer comme ça, ou est-ce que tu penses que le 4-4-2 reviendra dans certains matchs? Tu peux le dire, tu peux pas le dire, t'en sais rien?
Alors honnêtement, j'en sais rien. Moi, je pense que le coach savait qu'on pouvait jouer en 4-3, surtout quand il est arrivé de Steven. On savait très bien qu'on pouvait passer en 4-3. Après, bon, ça a bien marché, donc forcément, je pense que le coach l'a en tête et va le réutiliser. Après, ça dépend aussi de l'adversaire. Là, ça tombait bien aussi par rapport au dispositif de l'adversaire qu'on rencontrait. Le 4-3 était parfait pour jouer contre eux, donc je pense aussi qu'il va tenir contre l'adversaire, mais il va le réutiliser, c'est certain.
Damien, depuis cet hiver, vous avez le renfort à Rennes de N'Zonzi. Comment ça se passe, son adaptation, et qu'est-ce qu'il apporte au Stade Rennais?
Bah, ça se passe très très bien. Je pense qu'il a l'habitude de faire pas. Il a fait pas mal de clubs, donc au niveau de l'intégration, bon, il est assez mature. Il a expérimenté maintenant. nous apporte énormément, déjà dans le groupe. Il est très calme en dehors et sur le terrain. Et on a besoin de ça aussi, parce qu'on est un groupe très jeune. Et, par son âge, par sa maturité, l'expérience qu'il a pu avoir en sélection et dans les différents clubs, il nous apporte énormément. Et voilà, sur le terrain, bah, c'est un grand joueur, hein. C'est un champion du monde. Donc forcément, il nous aide beaucoup. Dans les ressorties de balle, on peut le trouver assez facilement. Il est très disponible et il a très peu de ballons. Donc c'est très rassurant pour nous. Très rassurant pour nous, pardon.
Damien, depuis la trêve hivernale, vous êtes troisième de Ligue 1 sans discontinuer, malgré un petit passage à vide il y a quelques semaines. Mais vous êtes troisième, vous n'avez pas bougé. Est-ce que ça serait un échec pour vous de ne pas terminer sur le podium? Est-ce que vous vous dites ça aujourd'hui à 10 matchs de la fin?
Non, je ne pense pas qu'on dit que ça serait un échec. Parce que voilà, en début de saison, on ne va pas se mentir. L'objectif, on ne s'est jamais dit, de finir dans les trois premiers. Certes, en étant pro, on veut toujours viser le plus haut possible. Donc aujourd'hui, on y est. C'est un bon challenge, ça c'est sûr, mais on se prend pas la tête, on se met pas une pression négative, parce que voilà, nous on voulait faire aussi bien que la saison passée, voire mieux. Aujourd'hui on fait mieux, c'est un challenge super important pour nous. Après voilà, on sait très bien que ça se joue à très peu de choses, il y a de très grosses écuries derrière qui poussent, donc nous forcément on veut rester là où on est, c'est super intéressant à jouer. Mais on sait que ça va être très très dur, on prend les matchs les uns après les autres, et puis je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Damien, ça a été une saison un petit peu bizarre, cette saison du Stade Rennais. Il y a eu un mauvais parcours en Coupe d'Europe, il y a eu une première partie de saison difficile, un redressement, le départ d'Olivier Létang, comme je le disais tout à l'heure, un petit passage à vide, et puis maintenant, de nouveau, ça va mieux. Quel bilan vous faites, vous, Damien? Est-ce que vous trouvez que vous avez parfois manqué de constance, de régularité, ou est-ce que vous jugez le global, et globalement, vous êtes là où vous vouliez être?
Oh, je pense vraiment notre saison, c'est ce que je pense aussi du football, c'est que c'est souvent des séries qui se passent. Et on a une série très négative à un moment donné. Mais dans cette série-là, je disais tout le temps, dès que j'avais des interviews, qu'on est dans une série négative et que ça va tourner et qu'on va passer dans une série positive. Et on a eu de la chance. Après, ce qui fait la différence, c'est qu'en même temps, la série dure. Et on a eu la chance que la série positive va durer assez longtemps. On s'est vite remplacé. Après, le classement était super serré à un moment donné, ce qui fait qu'on s'est retrouvé là-haut. Et puis derrière, on arrive à être beaucoup plus régulier en deuxième partie de saison dans nos résultats. Quand on fait un mauvais résultat, on réagit directement pour justement enrayer cette série-là, parce qu'on est conscient que c'est un vécu en première partie. On est conscient qu'une série négative peut durer longtemps. Et nous, le but aujourd'hui, bah, c'est de vite l'enrayer, parce que ça peut arriver de perdre des matchs ou d'être moins bon. L'important, c'est vite enrayer la série et rester sur un truc positif.
Damien, vous êtes revenu à 6 points de l'Olympique de Marseille, qui est dauphin du PSG en Ligue 1. Est-ce que ça devient un réel objectif, cette deuxième place?
Non, honnêtement, non. Après, c'est... si Marseille, on sera content forcément, parce que si on peut passer devant, on ne va pas s'en priver. Hein. C'est évident. Mais Marseille, c'est quand même une grosse équipe qui fait très bons résultats. Là, ils ont été moins bien, mais voilà, je les vois quand même là-haut à la fin. Donc voilà, nous, comme j'ai dit, on prend les matchs les uns après les autres et puis on verra ce qui se passe. Si Marseille fait une mauvaise série, que nous on passera devant, mais on va pas s'en priver. Mais voilà, on reste sur nos lignes directives. Voilà, on se prend pas la tête par rapport à ça.
Un dernier mot, Damien, avant de te libérer sur Kamavinga. On n'est pas avec lui au quotidien à l'entraînement. On voit juste ses matchs et on a l'impression que c'est un futur grand. Toi qui vis au quotidien avec lui, tu as le même regard? C'est un futur crack de notre championnat et du football français?
Oui, ça c'est évident. Et voilà, vous voyez le terrain, vous voyez le crack sur le terrain, ça tout le monde le voit, c'est indéniable. Mais moi, ce que je vois au quotidien, ça me rassure encore plus parce qu'il a vraiment la tête sur les épaules. Il a l'air d'être bien encadré, d'être tranquille. Il se prend pas la tête avec ça. Il reste, ce qui est important pour lui, c'est de rester jeune dans sa tête. De jouer au foot, tout simplement. Il se prend pas la tête. Il joue au foot comme s'il jouait avec ses potes. Et justement, ce qui fait qu'il est à ce niveau-là, c'est qu'il garde ça. Et je lui dis tout le temps de le garder le plus longtemps possible. Parce qu'il joue vraiment pour le plaisir. Il se prend pas la tête. Et voilà, ses qualités après prennent le dessus. Donc voilà, le plus important, c'est qu'il a la tête sur les épaules. Et pour moi, ça peut être un futur grand.
Merci beaucoup Damien.
Merci
à toi d'être venu dans Breaking Foot.
Bonne fin de saison.
Encore bonne soirée et surtout bonne fin de saison au Stade Rennais. On peut dire un mot aussi, parce qu'on a parlé avec Damien da Silva, de Kamavinga, d'Enzonzi, mais quand même de Julien Stéphane Pierre, qui continue de réaliser des choses assez incroyables avec son club, avec un effectif qui est moins fort que celui de l'Olympique Lyonnais, de l'OM et de Lille.
Et
vraiment lui fait. Enfin, on critique souvent les coachs français, mais lui fait des choses assez incroyables avec un effectif qui n'est pas forcément un effectif qui devrait être à la troisième place.
Ouais, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1, je sais pas, mais pour Rennes, c'en est une effectivement. Alors il y a Damien Da Silva nous l'a dit, il y a eu des passages un peu plus faciles et d'autres un peu plus compliqués pour Rennes. J'ai l'impression que là, avec tout le monde à disposition, il a trouvé une formule, et avec le recrutement d'Enzonzi notamment pour faire cette sentinelle seule devant la défense, j'ai l'impression qu'il a trouvé la meilleure formule. Voilà, la fin de saison va nous le dire, mais oui, c'est bien ce qu'il réalise. C'était dans la continuité de ce qui a été fait au Stade Rennais depuis qu'Olivier Létan était revenu. Espérons que ça, pour le Stade Rennais en tout cas, que ça continue comme ça sans Olivier Létan et que Julien Stéphane ait la latitude pour travailler et les résultats surtout qui lui permettent de le faire.
Rennes qui a deux matchs à venir assez difficiles en Ligue 1, un déplacement à Bordeaux dimanche à 15h et ensuite le samedi suivant la réception de l'Olympique Lyonnais. Ce sont deux matchs qui en diront beaucoup sans doute sur la fin de saison du Stade Rennais. 20h38 sur RMC, dans un instant, on vous attend, supporters de tous les clubs, appelez le 32-16, venez nous poser vos questions pour revenir notamment sur la victoire de Lille hier face à Lyon. On sera avec Antoine, supporter de l'OL, dans deux minutes sur RMC, à tout de suite.
RMC,
20h-21h,
Breaking Foot,
Mohamed Bouafsi,
Louis Hamard,
avec Pierre Ducrot, Breaking Foot en direct sur RMC jusqu'à 21h. Vous retrouvez ensuite Gilbert Bribois pour l'after jusqu'à minuit. Mais d'abord, c'est vous qui prenez la parole.
RMC,
Allô, Breaking Foot.
Antoine, supporter de l'Olympique Lyonnais, est avec nous au 32-16. Salut Antoine.
Salut Antoine.
Salut, bonsoir à tous, vous allez bien?
Bienvenue sur RMC,
ça va
très bien et toi?
Eh ben, ça va.
Pas
ça
top.
Va, parle foot.
Ouais, ça va, bah écoute, je vais vous parler d'autre chose que du foot. Voilà, je viens sur RMC, mais pour parler autre chose. Dis-nous tout, t'as envie de parler de musique, de cinéma, de...
Non, pas du tout. J'ai envie de pousser un petit coup de gueule après le match de ce week-end, parce que voilà, bon, c'est le match qui a acté qu'on ne sera pas en Ligue des Champions et peut-être même pas en Europa League. Et j'ai simplement envie de dire une chose, de dire que c'est bien fait. C'est bien fait pour la direction de ce club qui tire sur la corde depuis bien 2-3 ans, en se qualifiant à chaque fois à l'arrache en Ligue des Champions et en se s'auto-satisfaisant de pas grand-chose. On a un président qui nous fait croire que Lyon, qui veut faire de Lyon un très grand club européen, alors que sa volonté, c'est simplement d'en faire un club de trading de joueurs. On le voit, dès qu'il y a un bon joueur qui perce, il se retrouve sur le bon coin au mois de janvier.
Non, franchement, c'est vraiment pas Monaco ou c'est pas Lille, l'Olympique Lyonnais, quand même.
Sauf que c'est le seul club qui affiche sur son bilan comptable il y a 3 semaines qu'il a pour objectif de faire 90 à 110 millions de plus-value sur des joueurs. Sur les quatre.
Oui, parce que les autres clubs sont pas aussi bien structurés que l'OL, Antoine.
Ouais,
Antoine, que tu dises, je te rends la parole dans 20 secondes. Que tu dises, l'OL s'est complètement raté sur le mercato. Que l'OL, que tu dises que l'OL a une ambition qui est moins forte que les autres années. Que tu dises que l'OL a une structure qui est moins organisée que les autres années. Je veux bien l'entendre, ça, il n'y a pas de souci, c'est ton avis, il faut le respecter. En revanche, que tu dises que c'est un club qui fait du trading. Si l'Olympique Lyonnais avait voulu faire du trading, ils auraient vendu Moussa Dembélé cet hiver en Angleterre, par exemple. Tu vois, ils auraient lâché Oussem Aouar, Antoine. C'est pas, j'entends ta colère, mais c'est pas forcément sur ce point-là, c'est pas vrai en fait.
T'as raison, j'ai
tu vois, Oussem Aouar, il pouvait aller. Juste une info pour toi, Oussem Aouar, l'OL pouvait le lâcher l'été dernier à Manchester City. Guardiola le voulait absolument. Ils l'ont pas lâché.
Oui, très cher.
Tu vois ?
Non, mais bien sûr, j'ai volontairement grossi le trait, mais ce qui m'énerve, c'est que quand même. C'est la manière dont on nous vend ce qu'on nous vend et d'avoir, tu prends l'exemple d'Aouar, moi d'entendre Jean-Michel Aulas qui dit avant le match moi je vois bien Oussem l'année prochaine à la Juve, moi ça me file des boutons. Quand à l'inverse des joueurs moyens, je vais pas les citer, mais je sais pas, des Cornet, des Marsal, des Touzard qui ont mis longtemps, c'est des joueurs qui restent au club pendant 4-5 ans et sous prétexte qu'ils n'ont pas de valeur marchande, on les met pas dehors. Et du coup, on s'inscrit jamais sur la durée avec des bons éléments. Ndombele, pareil, l'attitude qu'il y a eu avec lui en disant dès le mois de janvier, si Paris le veut, on le laissera y aller. Non, mais moi, c'est des trucs qui me scandalisent. Alors, bien sûr, j'exagère, c'est du trading de joueurs, mais on peut pas se moquer de la figure de tout le monde au quotidien.
Antoine,
Antoine, on devait
passer à d'autres auditeurs parce qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs, donc je vais te poser une dernière question, mais tu vas devoir répondre vite. Est-ce que tu ne penses pas aussi que l'OL fait exprès de ne pas garder certains joueurs, de les vendre selon eux au meilleur moment? Je te pose la question parce que regarde Ndombele en ce moment, il est en difficulté. L'OL l'a vendu 75 millions d'euros. Est-ce que l'OL aurait pu faire beaucoup plus?
Non.
Tu vois, pas sûr. Ferland Mendy, c'est la même chose avec le Real Madrid, tu vois. Et en revanche, il y a des joueurs qui sont conservés le plus longtemps au club. C'est le cas d'Oussama Aouar, par exemple. Tu vois?
Ouais, non, mais c'est vrai que t'as raison. Mais tu vois, effectivement, moi, j'ai du mal à avaler qu'on ait vendu Ferland Mendy pour acheter Youssouf Koné. Sans se dire à un moment qu'on perd le haut change, quoi.
Enfin, je ne peux pas dire qu'il y a
Portago Mendes.
Difficile de te donner tort sur ce point-là.
J'exagère, bien sûr, mais voilà, nous, on en a marre. Oui, vous le savez, d'avaler les couleuvres de Jean-Michel Aulas au quotidien, normalement, ça use un peu.
Merci beaucoup, voilà. Antoine. Merci à toi d'être venu sur AMC dans Breaking Foot.
Et à bientôt.
À bientôt.
32-16. Le prochain match de l'Olympique Lyonnais, c'est vendredi contre le Stade de Reims. Dans un instant, on est avec Damien, supporter de l'Olympique de Marseille. Mais d'abord, le direct à 20h46 sur RMC. C'est le dernier match de la 28e journée de Ligue 2 entre Lens et Orléans. Jean Bommel, bonsoir.
Bonsoir Louis, bonsoir.
Salut Jibo.
Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Jibo.
C'est parti.
Ouais, c'est parti. Hein, forcément, c'est parti dans ce silence. Hein, il y avait plus de 20 000 supporters de prévus ici à Bollard. Hein, on sait pourquoi. Ça fait 0-0. Attention avec une action là, le centre complètement raté là de Michelin. Il y a eu une belle occasion hein, dès l'entame de match, même pas 50 secondes de jeu avec Sotoka qui frappe dans un angle fermé et qui oblige Alexandre Letellier de mettre ce ballon au corner. Corner qui n'a rien donné. L'enjeu de cette rencontre est simple. Hein, si Lens s'impose, Lens retrouve la deuxième place et reviendrait un point de Lorient. C'est plus que serré dans ce championnat de Ligue 2. On pensait voir Lorient et Lens s'envoler tranquillement vers la Ligue 1. Ben, c'est pas du tout le cas. Ça va être palpitant jusqu'à la fin de saison. Donc, pour l'instant, 3 minutes de jeu, 0-0 entre Lens et Orléans, qui, lui, est dernier du classement.
J'y pense juste comme ça, Jibo, mais tu sais que maintenant, il va y avoir beaucoup de matchs à huis clos. Samedi prochain, tu es au stade de la Licorne pour Amiens-Angers. T'imagines si tu fais la Licorne à huis clos?
Ah ben je pense que les dirigeants, je pense que Bernard Johanna va peut-être m'entendre pour la première fois sur la Licorne.
Je pense que même les joueurs ils peuvent un peu flipper. Hein. Je pense que là.
Ouais, ça va peut-être les motiver. Je pense.
Oui, t'as raison. Encore faut-il qu'à bien marre.
Oui, faut battre Angers parce qu'ils sont quand même en mauvaise pose sur les Amiénois.
Merci Jibo.
Allez, à tout à l'heure.
Bon match, ce match entre Lens et Orléans. Tout à l'heure dans l'after. Damien, supporter de l'OM avec nous au 32-16. Salut Damien.
Salut Damien.
Bonsoir.
Salut Damien.
Bienvenue Damien, on t'écoute.
Merci. Donc du coup, moi, je voulais revenir sur l'Olympique de Marseille parce qu'il faut que l'Olympique de Marseille reste prudent, notamment sur le fait que physiquement, c'est ce qui pêche du côté de l'Olympique de Marseille avec un effectif restreint. Ça manque de rythme dans le jeu, ça manque de décalage sur les côtés, ça manque de déséquilibre de l'adversaire, notamment en changement d'aile, hormis les individualités de Payet, bon, qui a marqué sur un coup de chance notamment, parce que même si son action, elle est belle en soi sur le départ face à Amiens, bon, elle est contre dans les moments. Sanson, c'est le gardien d'Amiens qui se trouve malgré sa percée également. Ça repose seulement sur des individualités et c'est ce qui me fait me dire qu'il faut être prudent. Parce que là, Rennes, ils sont sur une dynamique que voilà, ils reviennent à 6 points de l'Olympique de Marseille seulement. Lille, ils reviennent à 7 points de l'Olympique de Marseille également. Et Lille, hormis le match face à Marseille et sa défaite à domicile, ils ont battu Rennes, ils ont battu Lyon donc hier soir et ils restent sur les 5 derniers matchs sur 4 victoires quand même. Donc ça me fait penser que l'Olympique de Marseille, il faut pas qu'il se voit trop beau. Et même si Villas-Boas en interne, les joueurs, d'après ce qu'on nous dit et d'après ce que tu dis, Mohamed Bouafsi, souvent, c'est que Villas-Boas, il arrive à instaurer un état d'esprit du côté de l'Olympique de Marseille qui fait que ils arrivent à rester à une hauteur de pas se dire c'est fait, on est en Ligue des Champions. Ça, c'est bien. Mais je pense que ce qui va compter, c'est le terrain. Et Montpellier, puis le Paris Saint-Germain, ça va être deux matchs cruciaux en termes de fraîcheur physique. Je pense que Montpellier va vouloir se remettre à l'endroit après sa défaite face à Rennes 5-0. Et Paris, on sait très bien que, enfin, voilà quoi, il y a peu de chances de gagner, surtout s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, ils vont vouloir mettre des paniers à tout le monde jusqu'à la fin de saison. Donc ça va être un peu compliqué, voilà.
Le conseil est assez lucide. On l'a écouté, Damien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre? Est-ce que tu penses que la deuxième place n'est vraiment pas acquise pour l'OM?
Acquise, non, parce qu'il va falloir faire.
Si t'étais supporter de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu serais inquiet?
Bon, ça va être compliqué pour moi d'imaginer ça, mais je vais essayer quand même, Momo. Non, Damien a le droit d'être prudent et c'est même bien d'être prudent en général. Mais ceci dit, alors oui, il y a ces deux matchs-là qui font un peu peur aux supporters de l'OM, les deux matchs qui arrivent. Tu te dis, on peut éventuellement prendre 0 point contre Montpellier et Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Rennes et Lille reviennent sur nous. Sauf que Rennes, pendant ce temps-là, a deux matchs compliqué à négocier aussi, on l'a dit, Bordeaux et...
Monaco, non
et, non, pas Monaco, non. Rennes.
Qui Rennes
Rennes. Bordeaux si et Monaco
Lyon.
Voilà, Lyon, donc pas facile non plus. À la limite, ce serait peut-être un petit peu plus facile pour Lille qui joue à Brest, et encore que c'est jamais facile à Brest, et qui joue effectivement Monaco à la maison. Je pense qu'honnêtement, l'OM, et Damien l'a dit d'ailleurs, oui, t'as des individualités qui te font la différence et que ça repose là-dessus. Mais c'est le cas de toutes les équipes en Ligue 1. On ne cite pas ces individualités pour faire la diff. Je connais pas une équipe qui collectivement est assez costaud pour faire la différence. Et Damien l'a dit aussi, un état d'esprit est né. Villas-Boas a su créer un collectif avec un Rongi au milieu qui est bon, avec un Camara qui est bon, avec derrière une assise qui est bien meilleure qu'avant. On peut citer Sakai, Amavi qui renaît, Alvaro. Enfin voilà, t'as une équipe qui tient la route quand même en Ligue 1 et qui va pas d'un seul coup perdre 15 points quand les autres vont en prendre 15. J'y crois pas une seconde.
Et à un moment, certains joueurs de l'Olympique de Marseille ont aussi le droit de retrouver une forme de second souffle. Voilà, de retrouver un peu du peps, du jus. On peut penser à Sanson, Rongier. On peut aussi se dire que l'intégration pour revenir à 100% de Florent Thauvin, ça va faire du bien à l'OM. Voilà, l'OM va retrouver sans doute des couleurs les prochains jours.
Alors je sais pas si on peut en parler parce que est-ce que ça va jouer à huis clos ou pas, etc. Mais t'as un public aussi à Marseille qui va te.
Ah, en revanche, c'est pas bon.
Dans la dernière ligne droite, non, pour de
le huis clos.
Bah, les huis clos qui
sont prononcés. Non, mais c'est sûr, ou c'est pas sûr.
Jusqu'au 15 avril,
jusqu'au 15 avril,
si.
Jusqu'au 15 avril, c'est sûr.
Oui,
après, on sait pas. Oui. Dans la dernière ligne droite, je disais, dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire après, c'est quelque chose qui peut te faire la différence quand même. Quand tu vas être au coude à coude, peut-être avec Rennes et Lille, c'est quelque chose d'important pour tes matchs à domicile.
Pour l'instant, les huis clos s'arrêtent le 15 avril. Le 19, il y a Lyon OM.
Ah tiens,
mais tu sais quoi, mais je suis sûr que les Marseillais préfèrent jouer ce genre de match même à l'extérieur sans huis clos.
Merci Damien d'avoir été avec nous.
Là il y a tous les Marseillais qui se disent ouais, c'est sûr que c'est un complot, c'est un coup du président.
Et pour terminer, Mohamed est avec nous au 32-16. Salut Mohamed.
Salut Mohamed.
PSG.
Salut Mohamed.
Salut.
Bienvenue dans Breaking Foot, Mohamed. Dis-nous tout.
Alors moi je vous appelais, je voulais revenir concernant la probable composition de mercredi du PSG face à Dortmund.
Ouais, ouais.
Donc Mohamed, j'espère que tes infos sont limite fausses, parce que revoir Thiago Silva après...
C'est pas l'habitude de la maison quand même. Hein.
Ouais, c'est pas l'habitude. Mais
surtout
bon,
pour un autre Mohamed quand même. Hein.
Non mais après le dépit déjà de l'info là par rapport à huis clos, je suis dépité. Je pense que ça va être un gros désavantage pour nous. Parce que sans notre public, ça va être quand même compliqué. Ça va faire limite un match banal, tu vois, un match d'entraînement, un match amical.
Un match de Youth League.
C'est ça, un match de Youth League.
Il y a du monde, dans les matchs de Youth League. Hein. Le collectif limite, ultra se déplace aussi un peu.
Mais je pense qu'à ce niveau-là, déjà, on va être handicapé. Et pour revenir donc à la compo, je pense que Thiago Silva, après 2-3 semaines d'absence, ça va être compliqué. Surtout qu'on l'a vu récemment sur la scène européenne, il a vraiment du mal. Moi, je serais plus parti sur un Kimpembe Marquinhos. C'est beaucoup plus serein. Et au milieu de terrain, c'est interdit de mettre Paredes. Parce que j'étais passé, moi, chez vous. Donc, juste avant le match aller contre Dortmund. Et il y avait Pierrot, il y avait coach. Et donc, j'avais milité pour Paredes au milieu.
Et on t'a écouté en plus. Hein, vraiment. T'as été écouté.
Non, mais le problème...
Le groupe Inside Paris qui milite là avec un hashtag Paredes titulaire le 11. Sauf que
c'est pas nous qui décidons. Sauf que c'est pas nous qui décidons et je pense Mohamed, mais... qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé entre Paredes et Tourelle, moi. Pour que ça arrive à ce point-là, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose.
Je pense aussi, mais bon, après, franchement, à un moment donné, il faut mettre les échos de côté.
Je suis d'accord.
Voilà, faut qu'on passe ce match et il faut mettre les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. Marquinhos, il a rien à faire au milieu de terrain. Je suis désolé.
Je suis d'accord avec toi.
Derrière, ça respire la sérénité.
Il y a de l'impact. Tu peux défendre en avançant avec Marquinhos plutôt que Thiago Silva, même si on respecte Thiago Silva, ça n'a plus rien à voir maintenant. Ouais, je suis d'accord.
Ça n'a plus rien à voir.
Tu te filmeras mercredi quand tu découvriras la compo. Tu nous l'envoies.
Plaisir. Non, mais je pense que même moi, hein, moi je débat souvent avec mon frère qui est aussi supporter du PSG.
Ouais.
J'ai beaucoup défendu Thiago Silva. Mais à un moment donné, sur la scène européenne, je suis désolé.
Merci beaucoup, Mohamed. Merci à toi d'être venu sur RMC au 32-16 dans Breaking Foot. Tu reviens quand tu veux. Bon match pour mercredi soir et ce match que vous allez vivre.
Dernière chose, je peux demander.
Tu peux demander un autographe, t'as le droit de demander un autographe quand tu veux. On te l'enverra. On te l'enverra de Pierrot. En plus, t'es le seul à le demander depuis quelques mois. Donc, il n'y a pas de souci.
J'ai que toi à m'occuper, donc je m'en occupe.
On t'enverra un autographe, il n'y a pas de problème, Mohamed. Et un homme est entré dans le studio. Il est beau. Il est gracieux. Monsieur Gilbert Bribois, bonsoir
c'est
Gilbert.
Trop, c'est trop, du coup,
on
tu vois.
Pas trop.
Ouais, ouais.
Parce que c'est pas la vérité.
Ouais.
Ah, un homme est rentré dans le studio, moi, j'ai
voilà.
Voilà. Là, jusque-là. Là, c'est.
En fait, il a la physique de radio.
Ça, c'est vrai. Mais je me suis pas permis de le dire. Gilbert, quel est le programme de l'after?
Alors, dans l'after, évidemment, les huis clos. Les huis clos, on va en parler. Et puis surtout, on va en débattre. Est-ce qu'au final, c'est pas une mesure incroyable par rapport à ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est justifié ou pas? On va en parler. Les dernières infos compo du PSG, bien sûr, à 48 heures du match face à Dortmund. Et alors, c'est assez marrant parce que dans l'after, finalement, on a deux personnes qui ont joué le dernier match du PSG à huis clos. Mmh. Devinez qui?
Jérôme Bretagne
et
Damien Perrin.
Bien joué, PSG Boulogne.
On révise nos classiques, Gilbert.
Nous serons là, évidemment. Plus c'est le rôle de l'âme, le foot européen. Julien Cazard très en forme ce soir, avec un quiz sur l'autre de très haut niveau que je vais gagner, comme d'habitude.
Ah, bien sûr, comme d'habitude. Merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup, Pierre Ducrot. Merci beaucoup, Louis Amar. La meilleure émission de football au monde démarre dans 4 minutes. C'est l'After Foot. Passez une excellente soirée sur RMC. Bonne soirée.